en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le lundi 2 mai 2011, devant l'Académie des sciences morales et politiques réunie dans la grande salle des séances, Pierre Delvolvé a lu, selon l'usage, la notice sur la vie et les travaux de son prédécesseur, Jean Foyer. Entrée avec Canal Académie dans la salle des séances.
J'en viens ainsi à ce qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle plus solennelle que ne l'est celle qui nous réunit en général. Et je m'adresse directement à notre confrère Delvolvé. Mon cher confrère, élu le 14 décembre 2009 et introduit dans notre compagnie le 25 janvier 2010, vous avez eu déjà le loisir de relever que notre vie académique a ses mœurs et ses rites. Ils sont rarement sanctionnés par un règlement explicite, sinon dans leurs principes, du moins dans leur application. Comme tout ce qui est destiné à la sanctification par l'immémorial, nos rites sont nés par rencontre et ont été retenus par l'usage en raison de leur convenance pratique ou pour leur teneur symbolique. Il m'apparaît que la cérémonie qui nous réunit tous aujourd'hui vaut avant tout par son côté symbolique. Pour le percevoir dans sa lumière juste, il convient, me semble-t-il, de mettre l'accent sur ce qu'elle n'est pas, plutôt que sur ses expressions positives. Votre tâche explicite aujourd'hui, et non pas de prononcer l'éloge funèbre de votre prédécesseur, mais d'en lire la notice, c'est-à-dire de rappeler et de souligner ce qui fut notable dans sa vie, sa carrière et son œuvre. Notez bien qu'il n'est guère question dans cette notion de notice de la trace laissée par le défunt dans la vie académique, mais de la place qu'il occupe désormais dans la mémoire des vivants en proportion de ses mérites et de ses accomplissements. Le devoir qui vous incombe est particulièrement délicat à remplir, car comment saisir en quelques paragraphes la figure et le rayonnement de Jean Foyer ? Vous avez été jugé par vos confrères digne de lui succéder, et je ne doute pas que vous saurez relever le défi. Je ne voudrais pas blesser votre modestie, et encore moins flatter votre vanité, en soulignant à quel point la confiance que nous avons placée en vous se trouve justifiée par tous les titres que vous pouvez faire valoir. Je crois d'autant moins devoir le faire que cette solennité ne porte pas sur votre réception. Celle-ci a été accomplie sans cérémonie et sans éclat, de la manière la plus simple et la plus dépouillée, le jour déjà lointain où vous avez été introduit par notre secrétaire perpétuel et reçu aux applaudissements de vos confrères. Je n'aurai que l'embarras du choix si je voulais dresser votre portrait en forme d'éloge académique. Je pourrais détailler le brillant de vos études et l'éclat de vos diplômes. Je n'aurai aucun mal à souligner le tracé glorieux de votre carrière universitaire et la hauteur des charges et responsabilités que vous avez assumées. Je demeure impressionné par l'abondance de votre production et persuadé de son rayonnement bien au-delà de nos frontières. Vous m'apparaissez comme le modèle du professeur de droit et du juriste, je serais tenté de dire du jurisprudent au sens romain, à la fois savant en matière de droit et assez homme de bien pour en faire l'application la plus juste. Au demeurant, je ne suis pas le seul à en être convaincu, puisqu'il m'est revenu qu'il existe un fan club de Pierre Delvolvé sur Facebook. Non, mon cher confrère, ne vous en déplaise, ce n'est pas vous qui êtes à l'honneur en ce jour. Comme de juste, celui qui est honoré est Jean Foyer, et les honneurs lui sont rendus par son successeur. Votre jeune âge et votre belle santé laisse pressentir que vous n'en aurez pas avant longtemps, mais un jour, un inconnu de nous aujourd'hui lira la notice dont vous n'aurez jamais connaissance. C'est précisément dans ce passage de témoin que je vois pour ma part le sens symbolique de la cérémonie et du rite actuel. Les académiciens passent, mais l'académie demeure. Les académiciens sont mortels, mais l'académie est immortelle en comparaison. Les individus sont éphémères, mais l'institution est durable. Il est bien qu'il en soit ainsi, car sans les institutions et leur stabilité, les affaires humaines sont privées de cadres de référence et les actions dépourvues de sens. Il est déraisonnable de tenir que la vie et l'existence puissent prospérer par des innovations perpétuelles, même s'il est vrai que toute institution est née d'une initiative nouvelle. C'est pourquoi, et si vous y consentez, je vous invite maintenant à nous faire communier tous dans ce rite de perpétuation de notre académie par l'entremise de la notice consacrée à un académicien dont le souvenir nous est cher. Monsieur de Volvé, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mes chers collègues et parmi eux particulièrement cher Jacques Foyer, Mesdames, Messieurs. Avec Jean Foyer, au titre de la section législation, droit public et jurisprudence, l'Académie des sciences morales et politiques a compté parmi ses membres un auteur qui a été à la fois en droit et en politique une personnalité marquante. Il était prédisposé plutôt au droit qu'à la politique. Il a utilisé la seconde pour faire prévaloir le premier et le premier pour faire aboutir la seconde. Il n'a pas conçu de plan de carrière. Les circonstances qui se sont produites ont été autant de hasards qui sont devenus vite des nécessités. Ses ascendants, paternels et maternels, étaient d'une famille de notaires. Son père a succédé à son beau-père dans l'office de Contigné. C'est là que Jean naquit en 1921, dans cette commune située, comme il l'écrit, au nord de l'Anjou, au cœur de ce bocage qui s'étend de la vallée de la Seine jusqu'en Vendée à la plaine de Luçon. Contigné, Torigné, Étriché, autant de petits lirés que baigne la douceur angevine et dont l'image aurait pu illustrer l'affiche d'un candidat à la présidence de la République qui n'était pas tout à fait de la même tendance. Mais cette image, c'est celle de la France. L'attachement de Jean Foyer et de son village l'en fit maire pendant 42 ans. 7 mandats, et cet attachement est particulièrement illustré par la construction de sa bibliothèque au centre de son jardin, manifestant par là qu'il y avait à la fois son cœur et son esprit. Ses études ne l'ont pas d'abord éloigné de Contigné, puisque c'est à Angers qu'il fit ses humanités. Il y reçut une formation particulièrement approfondie dans les langues anciennes. Ses citations latines sont célèbres. Elles eurent parfois en retour celles du général de Gaulle. À l'Assemblée nationale, au cours d'une séance nocturne, où un député fatigué lui demandait de ne pas répondre en latin, il répliqua « Alors, je vais le faire en grec ». L'enseignement des langues était certainement moins important. L'anglais n'avait pas encore, en France même, infecté et supplanté la langue française. Celle-là, il la parlait avec pureté et élégance. L'enseignement de l'économie n'était pas assuré, ce qui évitait de traiter du marché dans un chapitre 16 et d'en donner comme exemple type le marché des esclaves, celui de la drogue ou de la prostitution. L'enseignement de l'histoire ne commençait pas comme maintenant, en 1789, et encore moins, en 1981. On pouvait inculquer la rigueur et insuffler l'ardeur autant avec les lettres qu'avec les mathématiques. On y arrivait aussi avec la musique. C'est à son collège que Jean apprit le grégorien qu'il chanta toute sa vie, et pas seulement à Solesmes ou au chœur grégorien de Paris qui en retour célébra ses funérailles. Monsieur Aurillac rapporte cette anecdote d'un dîner à la présidence de la République du Sénégal où Jean Foyer et Léopold Senghor psalmodièrent en même temps le nos, nobis, domine, à l'ébahissement du maître d'hôtel qui n'en avait jamais entendu autant des gouverneurs de la République. Sa culture musicale ne s'arrêtait pas au grégorien. Il aimait Mozart, l'opéra, et il fréquenta Salzbourg. Mais le grégorien était pour lui le témoignage de sa foi. Il n'en faisait pas étalage. Il ne se livrait à aucun prosélytisme, mais lorsque l'essentiel était menacé en jurisprudence et en législation, il opposait son refus. C'est avec une telle formation qu'il entreprit ses études de droit à Paris. Il y obtint des résultats si brillants qu'il attira vite l'attention de ses professeurs. Il s'est engagé dans une carrière, d'abord comme avocat qui retarda la rédaction de sa thèse soutenue en 1954 et la présentation du concours d'agrégation de droit privé où il fut reçu l'année suivante en 1955. Il ne renonça pas pour autant à son inscription au barreau qu'il garda même lorsqu'il était à la retraite de l'université pour pouvoir défendre les causes qui lui paraissaient le mériter, telles celles des Bourbons de la branche aînée, dans une action engagée par le prince Henri d'Orléans qui voulait lui interdire de porter le duc d'Anjou et d'arborer les armes de France pleines. La plaidoirie combina une démonstration implacable sur la recevabilité et sur le fond avec une verve presque féroce. Faut-il y voir une sorte de vengeance du descendant d'une famille dont un membre fut guillotiné sous la Révolution et qui n'aurait pas pardonné aux Orléans le vote de Philippe Égalité en 1793 et la montée sur le trône des Français en 1830. Ces événements sont trop anciens. La vengeance est un sentiment trop peu chrétien. La responsabilité collective est une institution si peu juridique. Et Jean Foyer était si fermement républicain qu'il ne put en être ainsi. C'était seulement l'effet de la rigueur juridique et du talent oratoire. L'une et l'autre, Jean Foyer put continuer à les exprimer comme professeur. À Poitiers, à Lille, à Nanterre, à Paris. Madame Garon, qui fut plus tard son attachée parlementaire, a souligné le talent et la séduction du maître pour transmettre les branches du droit les plus arides, telles celles de la procédure civile. Entre les cours, les étudiants aimaient se réunir autour de lui, il leur prodiguait des conseils et leur racontait des histoires juridiques et politiques. Député, il a toujours continué à assurer ses cours. Il ne les suspendit que dans la période où il fut ministre, mais la perspective de revenir à l'université était pour lui un bonheur, car l'université, c'est ou c'était la liberté. Il n'est pas nécessaire de faire de l'indépendance des professeurs d'université un principe constitutionnel. L'essentiel est en eux, surtout lorsque, en législation, en jurisprudence et en pratique, cette indépendance est si vivement mise en cause. Le 23 décembre 1959, s'adressant à l'Assemblée nationale, il pouvait rappeler la liberté de parole du professeur et l'indépendance de son statut, mais aussi, étant à la fois juriste et universitaire, son devoir rigoureux d'objectivité. Devoir qui est aussi important en politique. Il y est entré incidemment, et par le droit, à la faculté, plusieurs professeurs, dont les frères Mazot, incités à la résistance. Jean Foyer participa à un réseau, le réseau Orion, sous la direction de Michel Alliot. Il participa à la libération de Paris dans l'équipe dont le chef était Jean-Baptiste Viaggi, qui plus tard passa de la résistance à la rébellion, au chef de la résistance. Le professeur Lebras, qui d'un côté avait vu en Foyer un étudiant exceptionnel et de l'autre lui avait fait distribuer de la presse clandestine, le désigna à René Capitan lorsque celui-ci fut nommé ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement provisoire du général de Gaulle à la Libération. Ce fut le début d'une collaboration qui devait durer pendant longtemps. Et notamment lorsque Foyer étant ministre de la Justice, Capitan était président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Entre-temps, cette collaboration avait pu s'exercer à l'occasion de travaux, notamment sur l'outre-mer, en relation avec Madame Duléry, M. Aurillac et M. Plantet, constituant ainsi une bande des quatre qui allait se retrouver en 1958. La même année, Foyer entre au cabinet de Félix Houphouët-Boigny, ministre d'État dans le nouveau gouvernement constitué par le général de Gaulle revenu au pouvoir. Le pli politique était pris. Victor Chasseney, maire d'Angers, sur la recommandation de Michel Foyer, le prit comme suppléant pour représenter l'autre partie de sa circonscription aux élections de novembre 1958. Foyer ne resta pas longtemps suppléant. À la suite d'une confusion de noms, Chasseney fut nommé au Conseil constitutionnel et Jean Foyer devint député pleinement. Il le fut jusqu'en 1988. Avec les seuls intermèdes ministériels, secrétaire d'État, puis ministre plein de la coopération, de 1960 à 1962, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de 1962 à 1967, ministre de la Santé publique en 1972-1973. Sur les chemins du droit avec le général, selon le titre de ses mémoires, il put réaliser pleinement son épanouissement juridique et politique. Sa fidélité à De Gaulle n'empêchait ni les objections, ni l'opposition. Mais elle contribua à la réalisation de l'essentiel, la place de la France dans le monde, de l'État dans la France, de l'exécutif dans l'État. Il fait ainsi partie de ces professeurs de droit entrés en politique. Joseph Barthélémy, René Capitan, sans oublier les professeurs d'économie, André Philippe, Raymond Barre, comme lui, membre de votre académie, et qui, comme lui, eut à subir les contraintes de la politique, Raymond Barre acceptant l'erreur économique qu'il savait réaliser, alors même qu'il contribuait au redressement de la France. Pour un professeur de droit comme Jean Foyer, il en fut de même. La pression politique peut s'exercer sur l'activité juridique, il n'empêche qu'avec lui, peut-être plus que tout autre, si la politique a été saisie par le droit, en retour, le droit a été saisi par la politique. La formule peut faire craindre une soumission de la politique au droit. Il n'en reste pas moins que la réalisation par foyer de son activité permet d'assurer, grâce à la politique, la réalisation du droit en même temps que la politique trouvait une limite dans le droit. La politique, moyen du droit. À ce sujet, Foyer souligne lui-même que la majeure partie de sa carrière, comme garde des Sceaux, comme président de la commission des lois, fut consacrée à la réalisation de réformes législatives. Il attachait de l'importance à la loi. La vraie, non pas celle qui bavarde, non pas celle qui incante, non pas celle qui bricole. Ce n'est pas lui qui, comme président de la commission des lois, aurait conçu des lois de simplification du droit qui sont autant de complications du droit. Dénonçant la manie de légiférer, il voyait Perrin Dandin devenu législateur. Pour lui, la loi était une norme qui, régissant une matière, en détermine les dispositions grâce à des principes qui la fondent, qui l'organisent et qui en assurent la cohérence. Il n'avait pas toujours eu confiance dans la loi avant d'entrer au Parlement. Et c'est sur son insistance, au cours des travaux préparatoires de la Constitution de 1958, qu'il avait demandé que la procédure civile ne figurât pas parmi les matières réservées à la loi. Il n'avait pas confiance et il voulait réaliser une réforme d'un code de procédure civile qui, remontant à 1806, reprenait en réalité les termes d'une ordonnance de 1667. Grâce à cette compétence réglementaire, un nouveau code de procédure civile put être réalisé, d'abord partiellement, puis entièrement en 1975. La compétence du législateur n'était pourtant pas complètement écartée. Avec Pierre Mazeaud, Jean Foyer déposa en 1972 une proposition de loi dans le domaine de la procédure civile parce que le seul législateur pouvait régir cette question. Mais pour l'essentiel, c'est par la loi que furent réalisées un certain nombre de réformes législatives dans le domaine civil, dans le domaine commercial. Dans le domaine civil, les législations s'accumulèrent presque, mais de grandes législations. Réforme de la tutelle et de l'adoption en 1964, des régimes matrimoniaux en 1965, réforme un peu plus tard de la tutelle et de l'émancipation, des régimes matrimoniaux, de l'autorité parentale et de la filiation en 1972. Ce ne sont que quelques exemples. D'autres ont été réalisés en dehors du Code civil. La réforme de la copropriété en 1965, celle de l'indivision en 1975. Le Code de commerce ne se prêtait pas à la modification des dispositions relatives aux droits des sociétés. C'est donc une loi autonome qui fut adoptée. Mais Jean Foyer prit le soin de la date de sa promulgation, le 24 juillet 1966, 99 ans exactement après la première loi sur les sociétés par action. D'autres réformes eurent un avenir au-delà de lui. Et c'est ainsi que la loi sur les accidents de la circulation, dont il avait eu l'idée, ne fut adoptée qu'en 1985 avec un garde des Sceaux, contre lequel Jean Foyer a beaucoup bataillé, mais qui, au moins sur cette question, se retrouvait avec lui. D'autres réformes n'eurent pas de suite parce que la politique put y faire échec. Mais la politique trouvait dans la loi des limites, limites que Jean Foyer a pu ressentir ou faire ressentir. Limite de procédure, limite de fond. Limite de procédure n'est pas étonnant pour un auteur spécialiste de la procédure civile, mais en réalité, c'est surtout avec la procédure parlementaire qu'il eut affaire. Il était passé maître du règlement. C'est lui qui en avait assuré l'essentiel de la rédaction. C'est lui qui veillait à sa mise en œuvre et à son respect. Et notamment, c'est lui qui eut l'initiative de la disposition relative au droit d'amendement et qui, comme le soulignent Pierre Avril et Jean Giquel, est à la racine du droit parlementaire actuel. Ce fut une époque, dit Jean-Louis Pesan, que l'on peut qualifier d'âge d'or législatif. Cela a été dû, selon la formule platonicienne, mise en évidence par notre confrère Bertrand Saint-Cernin, à la générosité législative de Jean Foyer. Règles de procédure que Jean Foyer sut mettre à profit et qui se combinaient aussi avec des règles de fond. À ce sujet, la position de Jean Foyer se situe sur deux plans. D'abord, au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution, il existe des principes qui doivent être respectés par le législateur, par le constituant. Et cette position est à la base de la position qu'il prit en 1974-1975 et aussi avec les lois ultérieures, à l'encontre de la législation libéralisant l'interruption volontaire de grossesse. Mais sur un autre plan strictement juridique, un certain nombre de règles s'imposent aux législateurs dans l'ordre constitutionnel, dans l'ordre international. Dans l'ordre constitutionnel, Foyer rappelle pourtant qu'au cours des travaux préparatoires de la Constitution, Raymond Jeannot, commissaire du gouvernement, avait été catégorique au sujet du contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, pas de contrôle au regard du préambule. Mais le Conseil constitutionnel a pris une autre position par sa décision du 16 juillet 1971, dans laquelle d'ailleurs Foyer voyait plus des motifs personnels que des motifs institutionnels. Mais le pli était pris et désormais, au titre du préambule, s'impose sous l'œil vigilant du Conseil constitutionnel les principes tirés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, les principes fondamentaux avant reconnus par les lois de la République et aujourd'hui la Charte de l'environnement. Désormais, Foyer s'incline, on n'y reviendra plus. Mais désormais, dit-il, Léviathan se transforme en Gulliver ligoté. Mais Gulliver a su se défaire de ses liens. Léviathan n'est pas mort. La politique peut être saisie par le droit. La formule a été lancée par un professeur de droit public, pour désigner la soumission de la politique à cette branche du droit. Mais pour Fourier, ce n'était pas simplement le droit public, c'était tout autant le droit privé. La formule a une portée plus large. Elle signifie que le droit emprunte à la politique autant que la politique est saisie par le droit. Au cours d'une séance sur les lois de nationalisation en 1982, une formule célèbre a été lancée à Jean Fourier lui-même. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. En ce sens, la formule est inacceptable. Mais le droit peut être saisi par la politique de deux manières. D'abord, pour parvenir aux fins de la politique. Le droit est alors un moyen de la politique. Ensuite, parce que le droit n'a de portée que si un système en assure le respect, la politique doit s'en assurer. Elle est directement assurée par la sanction du droit. Le droit moyen de la politique. Il ne faut pas prendre l'expression comme désignant un vulgaire instrument qu'on utilise à sa guise, selon les besoins. Le droit est fondamentalement le moyen d'une œuvre politique. Accessoirement, il peut être le moyen d'une manœuvre politique. Toute œuvre politique s'inscrit dans le droit. Et celle à la réalisation de laquelle Jean Fourier a contribué est celle du général de Gaulle. Elle a porté sur la création d'un nouveau régime constitutionnel et la fin du régime colonial. Jean Fourier fait partie du groupe de travail constitué en 1958 par Michel Debré pour préparer la Constitution et où il retrouva la bande des quatre qui avaient travaillé auparavant. Il fut chargé, après les travaux portant sur la Constitution, de la préparation de certaines ordonnances et notamment de l'avant-projet relatif au Conseil constitutionnel, en liaison avec François Luchaire. Résumant dans son petit livre court mais dense sous la Ve République, les caractéristiques de celle-ci, il en montre d'abord l'aspect présidentiel, mais combiné avec des aspects parlementaires d'un parlementarisme rénové. Il en montre aussi le caractère alternatif selon que l'accent est mis, selon les cas, sur l'aspect présidentiel ou sur l'aspect parlementaire. Il en montre aussi le caractère évolutif. Et si la mort ne l'avait pas emporté la veille, il aurait pu souligner ses traits dans votre académie même, le 4 octobre 2008, lorsqu'en présence du président de la République fut célébré le 50e anniversaire de la Ve République. Dans l'évolution de la Ve République, il avait relevé des aspects qui n'étaient pas pour lui positifs. D'abord, dit-il, le caractère désastreux de la cohabitation. Ensuite, la dérive présidentialiste. À ce sujet, au cours d'un débat sur les institutions de la Ve République, il déclare « Le chef de l'État ne doit pas descendre constamment dans l'arène et combattre sans cesse en première ligne, sinon il userait son autorité dans ce qui n'est pas essentiel. » C'était en 1973. Dans l'élaboration de la Constitution, Jean Fourier s'est particulièrement attaché aux dispositions relatives à la transformation de ce qui était l'Empire colonial et qui a fait l'objet de la décolonisation. La création de la communauté devait tenir compte de souhaits contradictoires, et en gros ceux de Félix Houphouët-Boigny d'un côté et de Léopold Senghor de l'autre. La communauté devait céder rapidement sous la revendication de l'indépendance, dont la proclamation fut l'occasion pour Jean Foyer de suivre André Malraux dans son périple à travers l'Afrique, à commencer par le Tchad, où André Malraux répétait chaque fois le même discours. Plus fondamentalement, il négocia les accords de coopération assurant l'aide de la France économiquement, financièrement, militairement. 50 ans plus tard, les accords ont changé, mais l'aide de la France n'est toujours pas inutile. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, au jury duquel participait Jean Foyer, n'est pas inutile non plus. Mais aujourd'hui, Jean Foyer aurait sans doute du mal à trouver des lauréats. En tout cas, il ne se trompait pas lorsqu'il affirmait à l'ancienne colonisation occidentale succède une colonisation orientale et chinoise qui paraît infiniment plus efficace. C'était en 1959. De l'œuvre à la manœuvre, l'utilisation du droit peut paraître moins légitime. Tout dépend du but poursuivi. La manœuvre peut conduire à un renforcement, elle peut conduire à un retardement. Les moyens de renforcement ont été utilisés par le général de Gaulle en temps de crise et Foyer a contribué à les mettre en œuvre. La première loi de plein pouvoir, le 4 février 1960, après la semaine des barricades, eut pour rapporteur à l'Assemblée Jean Foyer. Il n'était pas persuadé que les conditions dans lesquelles les pouvoirs avaient été attribués au gouvernement en place sous la signature du général de Gaulle étaient parfaitement conformes au dispositif de l'article 38 de la Constitution. Mais, écrit-il, en des moments de très grave crise, il est autre chose à faire que du juridisme. On peut en faire par des moyens de retardement. Ils peuvent être d'ordre parlementaire. Et lorsque Jean Foyer était président de la commission des lois, il eut à faire face de la part de l'opposition à propos du projet de loi sécurité et liberté à tous les instruments de la flibusterie parlementaire. Exception d'irrecevabilité, question préalable, exception de renvoi en commission, multitude d'amendements au fond. Il réussit, avec le gouvernement, à faire passer la loi. Mais lorsque, selon ses propres termes, il est devenu peu de temps après opposant, actif, il a utilisé de son côté, avec tous ses amis, tous les mêmes moyens pour s'opposer à la loi sur les nationalisations. Ce ne fit que retarder, mais c'était un beau baroud politique et juridique. Du niveau parlementaire au niveau judiciaire, les moyens de retardement peuvent être utiles aussi. Et Jean Foyer les a utilisés lorsque le général Jouot, condamné à mort par le haut tribunal militaire, à la suite du putsch des généraux, faillit être exécuté. Entre-temps, le commandant en chef de la rébellion, le général Salan, avait été pris et jugé par le même haut tribunal militaire, mais il ne fut condamné qu'à la peine du bannissement, provoquant de la part du pouvoir une réaction analogue à celle de Louis XIV, lorsque la Chambre de justice en 1661 n'avait condamné Fouquet qu'à la peine du bannissement. Du coup, l'exécution de Jouhaud fut ordonnée. Voyez, avec d'autres ministres, y compris le premier, il voyait une injustice morale et une faute politique. Un recours en révision qui n'avait aucune chance de succès fut inventé par le bâtonnier charpentier et soutenu par le garde. Du coup, l'exécution fut retardée et la grâce fut accordée. Le juridisme que dénonce Foyer dans certains cas, cette fois-ci, avait du bon, il peut servir à la justice. La règle de droit n'a de sens et de portée que si elle fait l'objet de mécanismes en garantissant l'autorité. C'est elle qui en assure la sanction. Elle est étroitement mêlée au droit, elle est étroitement mêlée aussi aux politiques, car elle exerce une fonction politique, comme l'a écrit Jean Foyer avec Madame Pigeolier. Ce n'est pas que des considérations politiques doivent jouer dans la manière dont la justice est rendue, mais la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'État. Elle est une fonction de l'État. Elle est un organe de l'État. Les autorités politiques ne peuvent pas s'en débarrasser, s'en désintéresser, comme ministre de la Justice. Jean Foyer a eu, non pas à en influencer le système, mais à l'administrer. Il l'a fait, s'agissant de sa structure générale, il l'a fait aussi dans des occurrences exceptionnelles. De la justice en général, il avait une conception quant à son organisation et son action. Il n'était sans doute pas un partisan acharné de la dualité de juridiction, voyant dans notre système un héritage de l'Ancien Régime et de la Révolution. Mais aux reproches qu'on lui faisait, il rétorquait, il n'a jamais été dans nos intentions de supprimer la juridiction administrative. Au corps judiciaire, il a accordé toute son attention, entreprenant une nouvelle gestion du personnel, modifiant la géographie judiciaire, améliorant l'administration pénitentiaire, faisant bâtir de nouveaux immeubles et rendant l'abbaye de Fontevraud, qui était encore une prison, à une destination et une affectation plus adéquate. Aujourd'hui, les problèmes n'ont pas changé. Celui de l'indépendance des magistrats reste aigu. Voyez, se méfier autant d'un corporatisme autogestionnaire que d'une soumission à l'exécutif. Qu'aurait-il pensé de la récente réforme du Conseil supérieur de la magistrature? Il aurait voulu celle du Conseil d'État plus importante que ne l'ont réalisé les décrets de 1963. Il avait sans doute plus d'admiration pour ses membres que pour l'institution elle-même, tout en reconnaissant la perfection de sa jurisprudence, tout à fait remarquable, dit-il, citant le recours pour excès de pouvoir, le régime des actes administratifs et la responsabilité de la puissance publique. Le Conseil constitutionnel n'a pas échappé à sa critique. Il tend de plus en plus, dit-il, à devenir une cour constitutionnelle. Et comparant notre Conseil constitutionnel aux autres cours constitutionnelles, il considère qu'aucun moyen de désignation n'est satisfaisant. Est-ce pour cette raison qu'il a refusé d'entrer au Conseil constitutionnel quand il a été pressenti? Il aurait pu contribuer à l'évolution de sa jurisprudence. Il acceptait mal la fin du règne de la loi. lorsque, selon lui, il arrive au Conseil constitutionnel de refaire la loi des Ferrés. C'est alors la décision du Conseil, sa jurisprudence, qui, dans l'espèce, est la loi. L'exemple le plus caractéristique est sans doute celui du texte sur le Pax, 1999. Du moins, lorsqu'une loi est censurée comme contraire à la Constitution, il existe toujours la possibilité du lit de justice constituant, comme disait le doyen Vedel, et comme l'a illustré la réforme de la Constitution en 1993, à la suite de la décision rendue la même année à propos du droit d'asile. De même, à un niveau inférieur, une jurisprudence, dit-il, doit pouvoir être brisée. C'est dans la logique de la formule de Portalis dans le discours préliminaire du Code civil, la jurisprudence se forme sous la surveillance du législateur. Or, il n'est point de législateur auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle Foyer contestait non seulement les arrêts de la Cour, mais le système de la Cour qui n'a pas de contrepoids. Au moins, doit-on s'incliner, le système est devenu permanent. Occasionnellement, le cours de la justice peut être entravé par des événements exceptionnels qui mettent en péril l'autorité de l'État et les libertés des citoyens. Il faut alors des juridictions d'exception. Tous les régimes en ont connu. Les grands jours d'Auvergne en 1665 n'ont pas laissé de bons souvenirs. Foyer a dû en justifier. Avant qu'une juridiction permanente, la Cour de sûreté de l'État ne fût établie en 1963 et supprimée en 1981, furent créés d'abord le Haut Tribunal militaire et le Tribunal militaire par une décision prise en vertu de l'article 16 de la Constitution à la suite du putsch des généraux. Puis, la Cour militaire de justice, par une ordonnance du 1er juin 1962, en vertu d'une habilitation donnée par le peuple français au général de Gaulle, en approuvant les accords d'Évian, Cour militaire de justice destinée à réprimer la rébellion de l'Ouest. Un de ses membres, Canal, attaqua l'ordonnance devant le Conseil d'État qui, le 19 octobre 1962, l'annula par un arrêt qui compte parmi les grands arrêts de la jurisprudence administrative, mais qui suscita une vive réaction du pouvoir en prise à la même époque à la fois aux menées terroristes et à une opposition qu'il considérait comme politique autant que juridique. Entre-temps, avait eu lieu le 22 août 1962 l'attentat du Petit Clamart auquel le général de Gaulle n'échappa que par miracle. Il fallait juger les coupables. À cette fin, l'ordonnance annulée fut validée. La cour militaire fut prolongée et des condamnations prononcées. Cette fois, le recours en grâce du chef du complot ne fut pas soutenu, ni la grâce obtenue. Puis vint le temps de la clémence. À la fin de 1964, 1200 grâces avaient été accordées, dont les deux tiers totales. Puis vinrent les lois d'amnistie, 1964, 1966, 1968. En 1982, au cours d'un débat à l'Assemblée nationale, Foyer pouvait dire, l'histoire dira, si elle ne l'a déjà fait, que la répression des faits de subversion a été empreinte de modération, indulgence et absolution finirent par l'emporter sur le droit et sa sanction. Elles se combinèrent avec la générosité de Foyer, à laquelle tous ses amis rendent hommage, et de laquelle Madame Foyer ne peut être dissociée. Générosité qui s'accompagne du courage. Courage physique, alors que, détestant l'avion, il devait le prendre pour ses nombreuses missions en Afrique. Et surtout, lorsqu'il fut l'objet de plusieurs menaces de mort, conforté, si l'on peut dire, par la tentative de l'incendie de la maison où se trouvait sa mère. Courage moral aussi. Lorsque, fort de ses convictions, il s'opposa systématiquement à chaque étape à la législation sur l'avortement. Ainsi, dit-il, il s'est fermé définitivement la porte du gouvernement. Il s'est aussi fermé celle du Parlement. Il ne s'est pas opposé à celui qui voulait sa présidence de la Commission des lois en 1986. Il ne s'est pas opposé à celui qui voulait son siège de député en 1988. Alors, il a pu reprendre toute sa place parmi vous. Il avait été élu en 1984 au siège de Marcel Valline, qui fut celui qui m'a donné mes premiers cours de droit administratif. Il a participé activement à vos travaux, et pas seulement le lundi. Avec l'aide du professeur Catherine Puigelier, il a préparé de nombreux colloques qui ont abouti à la publication d'ouvrages qui font date. L'erreur, la création du droit par le juge, l'égalité, la vertu, l'autorité. Il a participé parmi vous à de nombreuses élections. C'est lui qui eut l'initiative de celle du cardinal Ratzinger comme associé étranger, ce qui nous vaut d'avoir en notre sein un pape, cas unique dans les annales de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Institut de France dans son ensemble. Lorsque Benoît XVI vint à Paris en 2008, c'est Jean Foyer qui organisa sa venue à l'Académie le 13 septembre, avant la célébration de la messe sur l'esplanade des Invalides. La maladie qui devait l'emporter l'empêcha d'y être physiquement, mais il y était mentalement et moralement. Sa présence n'a pas cessé. Elle est justifiée par sa vie et par ses travaux. Elle a été une nécessité. Par rapport à elle, l'élection de son successeur tient beaucoup plus au hasard. Mon vœu, Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, et qu'elles répondent désormais à une utilité.
Retrouvez sur Canal Académie l'interview de Pierre Delvolvé sur sa carrière et sur l'enseignement du droit et plusieurs émissions avec et sur Jean Foyer.